Nous prenons la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6. De Samuel, chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible dit « David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. » Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérèth Uzza. Amen. Alors nous voyons là l'intention d'un homme qui a voulu en quelque sorte aider Dieu. L'intention d'un homme qui a voulu faire une bonne action. Alors qu'il transportait l'arche de l'Alliance sur un char, l'arche semblait, a fait comme si, il allait tomber. Et cet homme, en voulant bien faire, a cherché à retenir l'arche. Et la Bible dit que Dieu l'a frappé sur place à cause de sa faute. L'intention était bonne. Mais pour Dieu, l'intention ne peut être bonne que si elle va dans le sens de sa parole. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, si une personne que nous aimons, nous voulons lui faire plaisir en lui offrant des fleurs, peut-être une personne que nous n'avons pas vue depuis longtemps. L'intention n'est pas mauvaise d'offrir des fleurs. Mais si c'est une personne peut-être avec laquelle nous n'avons pas vécu longtemps, une personne avec laquelle nous avons perdu de vue, nous sommes retrouvés depuis des années, des événements se sont passés, des choses se sont déroulées, et en revoyant cette personne, on veut lui offrir un cadeau. Je donne l'exemple de fleurs. Mais malheureusement, en lui offrant des fleurs, on se rend compte que cette personne est peut-être allergique au pollen, allergique aux fleurs. Donc l'intention qui était bonne de vouloir faire un cadeau, finalement se transforme en cadeau empoisonné. On a vu des personnes être invitées à un repas que des gens ont préparé, ont mis le cœur pour bien accueillir ces gens-là, pour qu'ils mangent bien. Mais au moment du repas, on se rend compte que la personne n'aime pas ce plat-là. La personne est peut-être allergique à ce plat-là. Et là, bien que l'intention était bonne de vouloir faire plaisir, finalement, c'est une intention qui tombe à l'eau. Le plaisir qui était programmé, le désir de faire du bien à la personne qui était prévu, finalement, devient une catastrophe. Cet homme avait une bonne intention en voulant étendre la main sur l'arche de l'Alliance, mais Dieu l'a frappé sur place parce que le Seigneur avait donné des instructions précises en ce qui concernait le transport de l'arche. Il avait donné des instructions précises en ce qui concernait le travail dans le temple. Et notamment, c'était les Lévites qui devaient s'occuper à la charge de tout ce qui regardait le temple et l'arche de l'Alliance. Et là, en l'occasion, cet homme Uzza n'était pas de la tribu des Lévites. Et en touchant l'arche de l'Alliance, il a commis un péché grave. Bien que l'intention soit bonne, Dieu n'a pas accepté cet acte-là parce que cet acte n'allait pas dans le sens de sa parole à lui. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent catholiques, d'autres qui se disent protestants, d'autres qui se disent mormons, d'autres qui se disent encore témoins de Jéhovah. Mais pourtant, tous ces gens-là se disent chrétiens. Tous ces gens-là se disent enfants de Dieu. Il y a des personnes qui recherchent, certainement d'une manière sincère, qui ont peut-être grandi dans une famille où ils étaient témoins de Jéhovah, donc c'est la première religion qu'il a connue. Il y a d'autres, quand ils ont entendu parler de Dieu, ils n'ont eu que pour image le pape, Marie, la croix, tout ce qu'on veut, donc se réfèrent automatiquement au catholicisme. Non pas avec l'intention de vouloir tromper Dieu, mais avec l'intention de vouloir connaître Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que l'intention est de connaître Dieu qu'ils sont dans la vérité. En étant dans des mouvements où on adore les idoles, en étant dans des mouvements où on prie encore ce Jésus-Christ qui est à la croix, en étant dans des mouvements où Jésus-Christ est encore un enfant dans les bras de sa maman, en priant, bien-aimé, des morts, en invoquant des morts, ils croient être sincères. Mais cette sincérité-là, cette intention dont quelquefois certains sont dévoués, qui passent énormément de temps, mais ça ne garantit pas le fait que Dieu soit d'accord avec ça. Nous ne pouvons être que d'accord avec Dieu si les actes que nous posons sont conformes à sa parole. Uzza n'a pas respecté le plan de Dieu. Il a voulu faire quelque chose pour Dieu, mais ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas selon le schéma de Dieu. Et beaucoup de personnes qui sont dans des religions où les pratiques ne sont pas conformes à la parole de Dieu, même si les intentions sont bonnes, mais la réalisation est mauvaise devant Dieu. Et ce sont des sacrifices que Dieu n'accepte pas. Ce sont des sacrifices que Dieu ne reçoit pas. Combien de chrétiens aujourd'hui viennent dans les cultes pour adorer le Seigneur, viennent dans les cultes pour confesser que Jésus-Christ est vivant, alors que la vie de l'extérieur, c'est une vie de péché. La vie de l'extérieur n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien que l'intention est de venir rendre un culte à Dieu. Mais les actes que nous posons dans le quotidien ne glorifient pas Dieu. C'est un sacrifice que Dieu n'accepte pas. C'est un sacrifice que Dieu condamne. L'intention de vouloir louer Dieu, l'intention de vouloir servir Dieu est une très bonne intention. Mais cette intention ne peut être que soutenue si elle est conforme à la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons des bonnes intentions pour servir Dieu, nous avons des bonnes intentions en venir mettre, en donnant l'argent dans les offrandes pour Dieu, bien-aimé. Mais si notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend, ça ne sert à rien de déposer l'argent. Ça ne sert à rien de crier que Jésus-Christ est Seigneur, parce que c'est une intention qui peut être bonne, mais qui en réalité passe pour mauvaise devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que la prière des justes, des hommes droits, est agréable à Dieu. Mais la prière des insensés est une abomination devant Dieu. L'intention de prier est bonne, parce que c'est la Bible qui nous demande de prier. Mais lorsque elle n'est pas faite avec les recommandations de Dieu lui-même, alors elle devient comme un parfum de mauvaise odeur devant le Seigneur. Et beaucoup, bien-aimés, d'entre nous, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ont des bonnes intentions. Mais ces intentions-là ne sont pas soutenues par la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas en accord avec ça. Et nous avons vu la conséquence de cet homme qui a voulu faire du bien en retenant l'arche, mais il a été frappé. Immédiatement, il a été frappé sur place, bien-aimé. Et bien que nous pensons faire du bien, mais si ce bien n'est pas conforme à la parole de Dieu, la Bible dit que beaucoup seront surpris. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Car moi, j'accepte tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les intentions seront là, bien-aimées, elles sont là. Mais ce qui est important, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est de faire ce que notre cœur nous pousse à faire en veillant que ça soit conforme à la parole de Dieu. Les intentions, bien-aimées, ce sont les désirs quelquefois que nous avons de vouloir faire quelque chose. C'est ça l'intention. Et ça se passe d'abord dans le cœur. Il y a un désir, il y a une volonté de faire quelque chose. Mais après cela, on l'amène à la réalisation ou bien on ne le pratique pas. Mais Dieu nous a donné l'intelligence. Donc combien même il y a un désir, il y a une volonté, il y a une intention de faire quelque chose pour Dieu, la Bible nous demande de tout éprouver, d'éprouver tout esprit. L'intention qui peut être là peut être de Dieu, comme elle peut être aussi de la chair, comme elle peut être aussi de Satan. Et Dieu nous demande de l'éprouver, de veiller. Est-ce que ce que je veux faire, c'est réellement pour Dieu? Est-ce que ce que je veux faire va dans le sens de Dieu? Ou bien ce que je veux faire, peut-être c'est pour plaire aux hommes. Peut-être c'est pour épater. Peut-être que c'est pour montrer que moi, je suis capable. Peut-être que c'est pour faire la différence dans un esprit de concurrence. Parce que l'autre n'a pas pu, mais moi, je vais le faire pour montrer que je suis capable. Et toutes ces choses-là qui sont faites dans cette optique, bien-aimée, ne réjouit pas le cœur de Dieu. Les intentions peuvent être bonnes, mais elles peuvent aussi être mauvaises. Mais Dieu nous a donné sa parole afin que toute chose soit sondée, afin que toute chose soit claire et lui soit agréable. Nous pouvons faire de bonnes choses pour Dieu si nous le connaissons. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, bien-aimé, on peut offrir un bouquet de fleurs à une personne qui est allergique aux fleurs parce qu'on ne connaît pas. Si aujourd'hui ta femme est allergique aux fleurs, bien-aimé, tu ne lui feras jamais un cadeau de fleurs. Tu ne vas jamais lui offrir parce que tu connais. Tu sais ce qu'elle aime, tu sais ce qu'elle a besoin et tu sais surtout aussi ce qui est néfaste pour elle. Mais si nous ne sommes pas fondés sur la parole de Dieu, bien-aimé, nous aurons beaucoup d'intentions, mais qui n'iront pas dans le sens de Dieu et ce sont des sacrifices vains. Nous devons être fondés sur la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui est agréable à Dieu, pour comprendre ce que Dieu aime. Si nous ne méditons pas la parole, si nous ne sommes pas fondés sur la parole de Dieu, alors nous allons réaliser beaucoup d'actes pour lesquels Dieu ne prendra pas plaisir. Le peuple d'Israël avait oublié comment il fallait transporter l'acte, l'arche de l'Alliance, et ils l'ont fait à leur manière, mais cela n'a pas été agréable à Dieu. Nous prenons le psaume 73. Psaume 73, à partir du verset 1er. La Bible dit, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà l'histoire d'un homme, Asaph, qui s'interrogeait sur le sort des méchants. Le constat qu'il faisait, c'est que lorsqu'il voyait les gens orgueilleux, les gens, les dictateurs, les gens, les menteurs, les rebelles, les escrocs, tous ces gens-là qui ont un mode de vie contraire à la volonté de Dieu. Il dit, mais j'ai l'impression, je vois que ces gens-là prospèrent. Ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils ne font que s'enrichir. Ils n'obéissent pas à Dieu, mais tout ce qu'ils font fonctionne. Alors à quoi ça sert de rester saint? À quoi ça sert de s'approcher de Dieu? Eux ne le font pas, mais pourtant leur vie, tout fonctionne. Et il dit, j'allais glisser. J'étais sur le point de tomber. Je portais envie aux insensés. Il avait l'intention de faire comme eux. Il dit, voilà, si je parle comme eux, donc en voyant cette chose-là, en voyant cette vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, mais qui semblait porter du fruit, il a eu l'intention de faire comme ces gens. Il a eu l'intention de copier ces gens-là parce qu'il voyait que c'était peut-être comme ça qu'il fallait réussir. Et ces intentions-là, bien-aimés, beaucoup aujourd'hui l'ont. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont accepté Jésus finissent par retourner dans le monde parce qu'ils ont l'impression que dans le monde, c'est beaucoup plus simple. Ils ont l'impression que dans le monde, c'est beaucoup plus facile de réussir. Ils ont l'impression que si on ment un petit peu, on va s'en sortir. Et ils ont quelquefois l'intention de faire pareil. Ils ont l'intention de prendre les conseils des païens pour les appliquer. Les intentions sont là. Comme cet homme de Dieu, il avait l'intention. Mais bien-aimé, il est revenu à lui-même. Il a dit, j'ai réfléchi là-dessus. Je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Je me suis humilié pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'intention que j'ai est réellement une intention de Dieu? Est-ce que l'intention que j'ai, est-ce que le Seigneur est en accord avec cela? Il s'est humilié pour comprendre le désir, la volonté qu'il avait. Est-ce que c'était une volonté qui venait de Dieu? Ou est-ce que c'était une volonté liée à la déception, liée à la chair, liée à la convoitise? Et il dit, je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Je suis entré dans la profondeur de Dieu. Il s'est humilié. Il a recherché la face de Dieu. Et Dieu lui a expliqué que si les méchants croissent, mais s'ils prospèrent, mais leur chute sera soudaine. Leur chute sera certaine. Dieu les élève. Plus ils élèvent, plus la chute sera mortelle. Lorsque Dieu élève un peu, emmène l'homme à se repentir, alors qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau. S'il se repent là, il va tomber, mais il ne se fera pas mal. Alors il risque de recommencer. Dieu va le laisser monter encore en orgueil. Dieu va le laisser croire que c'est lui le plus fort. Mais lorsqu'il tombera, il se souviendra que réellement, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et Asaph était dans ce cas-là. L'intention de copier était là, mais il a sondé cette intention-là. Il a réfléchi, il s'est posé la question. Est-ce que réellement, le désir que j'ai au fond de moi, est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Bien-aimés, et c'est un exemple pour nous. Nous devons apprendre à sonder les intentions. Lorsque nous voulons aller faire des règlements de compte, parce que nous avons entendu que tel a parlé de moi, parce que nous avons entendu que tel a mal parlé, dans quelle intention nous allons voir le frère et la sœur? Est-ce que c'est réellement pour construire? Est-ce que c'est réellement pour la paix? Ou est-ce que c'est aller voir la personne pour dire que moi, on ne me salit pas, que moi, on ne me parle pas comme ça, que moi, je ne suis pas n'importe qui? Dans quelle intention, bien-aimé, lorsque nous avons un problème à régler, dans quelle intention nous allons régler ce problème? Est-ce que c'est réellement dans la paix? Est-ce que nous nous sommes ainsi un instant? Ou bien l'impulsion de la colère nous pousse à vouloir parler, à vouloir régler les choses, quitte à ce que ça détruise tout, ce n'est pas grave, mais au moins il me connaîtra. Au moins il saura qui je suis. Dans quelle intention? Ou est-ce que nous le faisons? Dans l'intention, comme le Seigneur nous l'a indiqué, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dans l'intention que le Seigneur nous a indiqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque nous allons pour régler un conflit, c'est dans quelle intention? Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir, de nous poser la question? Je vais aller voir le frère ou la sœur, pourquoi? Qu'est-ce que j'attends de cet entretien? Qu'est-ce que j'attends de cette discussion? Qu'il y ait réparation? Ou bien j'attends seulement, il faut qu'il me demande pardon. Il faut qu'il s'excuse parce qu'il a mal fait. Ou bien est-ce que nous allons réellement, dans un esprit, que la personne soit touchée, que la personne revienne au Seigneur et de gagner notre frère? Les intentions peuvent être bonnes, mais lorsqu'elles ne sont pas réalisées selon le fondement de la parole, alors elles produisent quelque chose de mauvais. Aller voir la personne pour arranger le problème, ce n'est pas ça qui est mauvais. Aller voir la personne pour avoir des explications, ce n'est pas ça qui est mauvais. Ce qui peut être mauvais, c'est la mauvaise intention dans laquelle nous allons voir la personne. Et bien que l'intention pouvait être bonne, finalement elle produira la mort. Parce que même si la procédure, pardon, est bonne, mais que les intentions sont mauvaises, elle produira la mort. Quand l'intention est là, nous devons faire comme Asaph, entrer dans la présence de Dieu, réfléchir là-dessus et nous poser les questions. Je vais aller voir le frère et la sœur pour arranger un problème. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Il y a des passages où la Bible nous demande de nous laisser dépouiller. Il y a des passages où la Bible nous demande de nous laisser humilier, aller chercher pour régler les problèmes, mais c'est biblique. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a des moments où on peut aussi tout simplement laisser notre nom être sali, mais laisser Dieu lui-même nous faire justice. La Bible dit que la vengeance et la rétribution lui appartient à lui seul. Dieu nous demande de pardonner, Dieu nous demande d'aimer. Veillons sur nos intentions. Asaph l'a fait parce qu'il voulait vivre comme les autres, parce qu'il voulait faire comme les autres. Souvenons-nous, bien-aimés, lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, à cette époque-là, le peuple d'Israël n'avait pas de roi. À cette époque-là, le peuple d'Israël n'avait pas de seigneur, une personne qui pouvait juger sur eux. À cette époque-là, Israël était un peuple à part, n'était pas comme les autres nations qui avaient déjà des rois. Mais à un moment donné, ils ont dit à Samuel, nous voulons aussi un roi comme les autres nations. Samuel a été irrité. Samuel a été touché parce qu'il ne comprenait pas. Le Seigneur dit à Samuel, Samuel, ne t'en fais pas. Fais comme ils te diront. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette. L'intention de vouloir faire comme les autres nations était tout simplement une intention qui révélait que le peuple d'Israël ne voulait pas de Dieu comme roi. Il ne voulait pas de Dieu comme leur Seigneur. Il voulait mener leur propre vie comme les autres nations le faisaient. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens, comme des païens, refusent tout simplement de croire en Dieu parce qu'ils ne veulent pas avoir un chef sur leur vie. Ils ne veulent pas que quelqu'un décide à leur place, mais ils veulent être maître de leur vie. Donc l'intention, comme certains le disent quelquefois, mais non, dans l'église il y a trop de charlatans, il y a trop de faux serviteurs, moi je préfère rester chez moi. On m'a menti, j'ai déjà été déçu. Bien-aimés, le fait de vouloir se protéger contre les faux serviteurs, ce n'est pas ça qui est mauvais. Mais ce qui est dangereux, c'est en réalité l'intention qui est cachée dans le cœur. Tout simplement pour fuir l'autorité de Dieu. Tout simplement pour fuir le schéma de Dieu. On donne comme excuse que tous les serviteurs sont mauvais parce qu'on refuse tout simplement de se soumettre au schéma de Dieu. Et l'intention, bien-aimée, lorsqu'elle est manifestée, à la fin, le résultat. On verra clairement si l'intention était réellement par prudence ou bien l'intention était tout simplement de dire « Seigneur, je ne veux pas de chef ». On ne le dit pas de notre bouche, mais notre comportement témoigne que nous ne voulons pas de Dieu. À l'image du peuple d'Israël qui ont demandé un roi comme les autres nations, ils n'en avaient pas besoin. Mais ils refusaient, ils ne voulaient plus être sous l'autorité de Dieu seul. Et beaucoup de chrétiens qui font marche arrière aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont quelque part décidé que l'autorité de Dieu c'était trop. Ce que Dieu me demande de faire c'est trop. Ce que Dieu me demande de faire, non, c'est abusé. Ça fait longtemps que je suis dans telle situation. Dieu ne fait rien. Alors, en prétextant que nous avons besoin de nous mettre à part, en prétextant que nous avons besoin de réfléchir, en réalité, l'intention est tout simplement de sortir du schéma de Dieu. L'intention est de quitter le schéma de Dieu, l'autorité de Dieu, comme ce peuple-là. Mais nous devons méditer, bien-aimés. Nous devons réfléchir comme l'a fait notre frère Asaph. Comme il nous l'a montré, il a réfléchi. Les intentions étaient là. Mais il a sondé. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que la décision pour laquelle je tends, est-ce que réellement Dieu est en accord avec ça? Ou est-ce que c'est tout simplement la chair? Est-ce que la décision que je veux prendre n'est pas simplement la conséquence de la honte? Parce que les gens de la famille se moquent de moi depuis un temps. Depuis que je suis chrétien, je n'ai pas de travail. Est-ce que la décision que je veux prendre n'est simplement pas pour fuir les rires? Pour fuir les paroles des uns et des autres, ou est-ce que réellement la décision, l'intention qu'il y a dans mon cœur vient réellement de Dieu? Une intention qui vient de Dieu, bien-aimé, produira du fruit propre à la parole de Dieu. Une intention qui n'est pas biblique, bien-aimé, soyons certains que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des personnes qui disent, oui, mais c'est pas grave, je peux quand même entrer dans les temples catholiques, parce que bon, c'est le membre de ma famille qui va se marier ou bien qu'on va baptiser. Bien-aimé, l'intention de vouloir faire plaisir les hommes ne colle pas avec la parole de Dieu. Nous avons un choix à faire. Lorsque l'intention est là, lorsque la volonté, le désir est là, avant d'appliquer cela, il y aura toujours un choix à faire. L'intention est là. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous posons la question, est-ce que je le fais ou que je ne le fais pas, c'est parce que nous avons examiné au travers de la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons prendre une décision. Oui, je le fais ou non, je ne le fais pas. Mais vouloir, bien aimé, avoir des intentions en prétextant que mais le Seigneur a dit quand même qu'il faut soutenir nos frères et sœurs. Le Seigneur a dit quand même « Honore ton père et ta mère ». Alors pour honorer mon père et ma mère, je vais mentir un petit peu pour protéger parce qu'il faut couvrir. Bien aimé, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Toute intention véritable doit être en accord avec la parole de Dieu. Beaucoup, bien aimé, la Bible dit « Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur » dans Matthieu 7. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup qui avaient des bonnes intentions, mais qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Bien aimé, l'obéissance est mieux que les intentions. Nous pouvons quelquefois avoir des désirs pour lesquels nous n'arrivons pas forcément à discerner est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, si pour toi ce n'est pas clair dans la parole, même si l'intention peut être bonne, ne le pratique pas. Au bénéfice du doute, ne le pratique pas jusqu'à ce que le Seigneur te le confirme d'une autre manière. Mais même lorsque l'intention est forte, mais que c'est une intention qui n'est pas claire dans la parole de Dieu, mieux vaut ne pas l'appliquer par obéissance à la parole. Ce ne sont pas les intentions qui sauvent. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Uza qui avait une bonne intention. Mais ce qui importait pour le Seigneur, c'était la mise en pratique de sa parole. Ce n'était pas qu'on cherche à lui faire du bien. Bien-aimé, vous savez qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu, bien-aimé. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu n'a pas besoin de nous. Il a utilisé des animaux pour prophétiser. Vous croyez que Dieu aurait besoin des hommes, bien-aimés? Dieu nous utilise par amour. Dieu nous utilise par sa souveraineté, mais en réalité, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui, donc nous ne pouvons pas avoir des intentions comme si nous allons aider Dieu. C'est pourquoi même ceux qui donnent des offrandes en se disant « je vais soutenir l'œuvre », bien-aimés, c'est une erreur. On ne donne pas l'argent pour soutenir l'œuvre. C'est Dieu lui-même qui soutient son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Nous, on donne l'argent pour offrande à Dieu. Après, le Seigneur gérera les choses comme il veut. Mais bien-aimés, n'ayons pas dans la pensée que lorsque nous donnons une offrande, que c'est pour ces bâtiments-là. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on lui donne à lui par amour. Et ensuite, selon son schéma à lui, il va gérer ça à sa manière. Mais ne donnons pas dans le but de vouloir aider. Personne ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider le Seigneur, bien-aimé. C'est nous qui avons besoin de lui. Et bien souvent, bien-aimé, lorsque l'intention est en se disant que je vais faire pour soutenir Dieu, bien-aimé, nous nous trompons totalement. Nous nous trompons totalement. Lorsque Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, les hommes criaient, les hommes chantaient. Les pharisiens, les jaloux qui étaient là ont dit, mais empêche ces gens de chanter. Le Seigneur a dit, mais vous n'avez pas compris. Même si ces gens-là se taisent, les pierres vont crier à leur place. Les gens ont voulu faire les orgueilleux. Nous, nous sommes des descendants d'Abraham. Le Seigneur a dit, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Même avec ces pierres-là, Dieu peut donner une descendance à Abraham. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Nous ne pouvons pas aider le Seigneur dans ce que nous disons, quelquefois en faisant comme du chantage à Dieu. Certains, quelquefois, quittent les assemblées parce qu'ils se disent, je quitte, on va voir comment cette assemblée va vivre. Je quitte, on va voir comme c'est moi qui finançais, comme c'est moi qui donnais l'argent, bien-aimé. Lorsqu'on réfléchit comme ça, c'est qu'on n'a pas connu Dieu. On n'a pas connu Dieu. Certains quittent en se disant que quand je vais quitter, tout va tomber. Bien-aimé, tu vas quitter, Dieu va te remplacer automatiquement. Dieu n'a besoin de personne. Le chantage que nous faisons aux hommes, « Ah, si tu parles encore comme ça, le pasteur m'a mal parlé, je vais quitter. » Bien-aimé, si le pasteur t'a mal parlé et que tu vas quitter à cause de ça, sache que même si c'était toi qui donnais le plus d'argent, même si c'était toi qui chantais ici, même si c'était toi qui jouais la batterie ou bien qui prêchais, Dieu te remplacera automatiquement. L'œuvre de Dieu ne va pas mourir à cause d'un homme. L'œuvre de Dieu ne va pas mourir à cause de nous, bien-aimés. Le privilège est pour nous. Nous devons tout simplement avoir l'intention de vouloir être à la disposition de Dieu. Non pas l'intention de vouloir aider Dieu. En voulant aider Dieu, bien-aimés, nous allons finir très mal. Parce que si nous voulons aider Dieu à la manière des hommes, l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Or, ce qui est spirituel, aucun homme ne peut le soutenir. Si nous pouvons faire un travail spirituel, c'est parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui n'ont pas été appelés, peut-être à être pasteur ou quoi que ce soit, qui veulent commencer des œuvres, ça va s'écrouler rapidement. Non pas parce que forcément les choses ont été mal faites sur un plan organisation, c'est tout simplement ce que la personne n'avait pas eu le don pour faire l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire. Et il finit par s'énerver, il finit par crier sur les gens, il finit par prendre l'argent de l'église parce qu'il n'a pas compris. Il est venu dans un but de vouloir aider Dieu, bien-aimé, et ça ne marche pas comme ça. Avec les seigneurs, les intentions peuvent être bonnes, mais les intentions peuvent être aussi trompeuses. Il y a quelquefois, nous voyons des gens bien faire. Nous voyons, bien-aimés, il y a des gens, quelquefois, il y a eu, un procès qui avait été prononcé en Belgique sur un pédophile. Donc, certainement, nous avons entendu cette histoire-là. Bien-aimés, et l'avocat des familles des enfants dont le pédophile avait abusé, était un combattant, bien-aimé, contre les pédophiles. Il combattait, il passait à la radio, il passait à la télévision pour dénoncer ses actes. Bien-aimé, quelques mois, quelques années après, il y a eu une perquisition sur lui, on a trouvé des cassettes vidéo de pédophilie, toutes ces choses-là, il a été en prison. L'intention qu'il manifestait devant le monde le soutenait. Parce qu'on disait ça, c'est quelqu'un qui aime la vérité. C'est quelqu'un qui défend le droit des enfants. Mais cette intention cachait une autre réalité, c'est que lui-même était dedans. À ce niveau-là, nous ne voyons pas. Mais Dieu seul le sait. Mais il y a un verset qui dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il y a des gens qui manifestent certaines intentions devant le Seigneur. Entre guillemets, devant les hommes plutôt. Qui manifeste des intentions que j'aime Dieu, je veux servir Dieu. Mais Dieu sait que dans le cœur, celui-ci n'est pas à moi. Il y a la parabole du bon grain et de l'ivraie. Les deux plantes ont grandi ensemble, aussi bien qu'on ne faisait pas bien la différence. Mais le Seigneur a fait comprendre que laissez-les grandir ensemble. À la fin, à la moisson, on verra qui est qui. Dieu fera la différence entre ce qui était de lui et ce qui n'était pas de lui. Pourtant, dans les intentions, on a l'impression que la personne aime Dieu. La personne chante, la personne crie « Alléluia !» Mais un jour, Dieu va révéler que la personne est dans la sorcellerie. L'intention peut être trompeuse devant les hommes, mais l'intention ne peut pas tromper Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à ceux qui frappent le regard. Lorsque Samuel est parti pour oindre le roi que Dieu avait choisi, l'homme selon son cœur, il est arrivé dans la maison, il a vu un grand costume, il s'est dit « Certainement, c'est lui. » Dieu lui a dit « Non, ce n'est pas lui. » Moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur. Et lorsqu'il est parti à l'endroit où Dieu lui avait donné, il est parti, la Bible dit qu'il a vu un enfant. C'était cet enfant-là, David, que Dieu avait choisi comme roi. L'intention qui vient du cœur, c'est Dieu seul qui le voit. Et un jour, Dieu amènera cela à la surface. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est dans notre intérêt d'être transparent, d'être honnête vis-à-vis des hommes. Parce que lorsque Dieu amène les choses à la lumière, l'humiliation est grande, bien-aimé. Et quand l'humiliation est grande, on ne vit plus. On se cache. Certains ne veulent plus sortir de la maison. Certains ne veulent plus qu'on les voie. Certains ne veulent plus répondre au téléphone. Parce qu'ils se prétendaient pour quelqu'un, mais il a été découvert. Il y a eu des gens, bien-aimés, qui mentent, qui commettent l'adultère. Ils se comportent comme s'ils n'étaient pas mariés à son travail. Et le jour où on l'attrape, qu'il avait déjà une autre femme, bien-aimée, ce sont des problèmes sur problèmes qui commencent. C'est dans notre intérêt d'être honnête. Les intentions peuvent être bonnes et Dieu les voit. Et quand l'intention est bonne, bien-aimée, même lorsque la chose a été faite avec erreur, Dieu pardonne facilement. Nous voyons, bien-aimée, lorsque un enfant, quelquefois, veut donner un coup de main à sa maman à la cuisine, qui veut faire quelque chose de bien, peut-être qu'il va casser le verre. Mais quand tu vois quand même que l'enfant a voulu faire un effort, ça passe rapidement. Mais quand l'intention est mauvaise, bien-aimé, la conséquence est aussi grave. Et beaucoup d'entre nous, nous avons fait quelquefois des erreurs par ignorance. Et la conséquence, quelquefois, n'a pas été grave sur le plan, un point de vue spirituel, parce qu'on ne connaissait pas. Mais lorsque l'on connaît et que l'on veut cacher à Dieu, les conséquences sont aussi beaucoup plus graves. C'est pourquoi la Bible dit que celui à qui on a beaucoup confié en demandera aussi beaucoup de comptes. Parce qu'il était censé savoir. Nous voyons aujourd'hui, même dans le monde, lorsque un homme commet un crime, on va en parler, on va le condamner, c'est fini. Mais si c'est un policier qui commet un crime, bien-aimé, on va en parler et en parler et en parler et en parler parce qu'il était censé connaître la loi. Et lui, on ne va pas l'épargner. Mais quelqu'un comme tout le monde, on va en parler, ça peut passer. Mais quelqu'un qui était censé connaître la loi, celui-là, on ne va pas l'épargner. Et Dieu fera la même chose. Celui à qui il a beaucoup révélé, celui à qui il a beaucoup donné, c'est aussi à celui-là qui demandera beaucoup de comptes. Nous voyons, bien-aimés, lorsque nous laissons quelquefois les enfants à la maison, et parmi ces enfants-là, il y a un aîné qui surveille les autres. Même si les petits ont fait des bêtises, quand on revient, c'est l'aîné qui va tout prendre. Parce que c'était lui qui était censé veiller, il était censé connaître ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et Dieu fera la même chose. Nous pouvons tromper devant les hommes, bien-aimés, mais on ne peut pas tromper devant Dieu. Et nous allons voir des personnes qui avaient apparemment des bonnes intentions, mais en réalité, les conséquences ont révélé que les intentions étaient purement égoïstes. Nous prenons 1 Samuel chapitre 15. Samuel 15, à partir du verset 12. 1 Samuel 15, à partir du verset 12. La Bible dit, « Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. » Alors, j'explique le contexte. Il y a eu, le Seigneur a envoyé Saül pour combattre le peuple d'Amalek. Et lorsqu'il les a envoyés, il a dit, vous détruisez tout. Les animaux du plus petit au plus grand, vous détruisez tout. Et Saül n'a pas obéi. Verset 12, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination, de la résistance, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as été rejeté, tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque nous lisons l'histoire de Saül, dans les premiers versets que nous avons lus, on peut se poser la question, mais c'était quand même bien ce qu'il allait faire. Il a voulu faire un sacrifice à Dieu, un sacrifice animal à Dieu. Il a tué, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. En partie, Dieu lui avait aussi demandé de dévouer par interdit les animaux. Mais il a pris ces animaux-là pour offrir un sacrifice à Dieu, pour faire un cadeau à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur n'accepte pas le cadeau qui est issu du péché. Le Seigneur n'accepte pas de cadeau qui est issu de la désobéissance. Il y a des femmes qui sont à la maison. Le mari lui demande de faire quelque chose. Non, moi je dois partir à l'église et je viens adorer Dieu. Tu désobéis un commandement que Dieu donne à la maison pour venir louer Dieu. Bien-aimé, ça ne colle pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce même Dieu qui te demande de l'adorer, c'est ce même Dieu qui te demande d'être soumis à ton mari. L'autre côté aussi, pour ne pas qu'il y ait de jalouse, il y a des hommes qui se comportent comme des dictateurs à la maison. Moindre chose que la femme demande, c'est non. C'est il retarde ou bien il fait comme il a envie de faire. Et il vient tranquillement dans l'église, mettre les offrandes, tranquillement dans l'église, louer Dieu. Il est écrit, tu aimeras... Comment ? Les hommes sont où là ? Qu'est-ce qu'il nous a demandé ? Tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'église. Et nous refusons d'appliquer cela, mais nous voulons tout simplement qu'on nous accepte du côté où c'est le chef de la maison. Bien-aimé, ça ne va pas. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice issu de la désobéissance. Venir louer Dieu, c'est bien. Offrir un sacrifice comme Saül voulait le faire, c'était quelque chose qui était bien. Mais c'était quelque chose qui n'était pas fondé sur la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit l'histoire, on se dit, mais pourquoi lui reprocher cela ? Mais la raison, Saül lui-même va la donner à la fin. Lorsque Samuel lui dit, mais Dieu t'a rejeté, c'est fini. Il dit, c'est vrai. J'ai cédé parce que je voyais le peuple qui partait. J'ai cédé, j'ai eu peur que le peuple m'abandonne. Saül a eu peur pour son pouvoir. Il voulait conserver son pouvoir, c'était ça qui l'intéressait. L'intention qu'il avait de faire un sacrifice à Dieu n'était pas réellement pour adorer Dieu, était simplement pour conserver sa place de roi, parce que le peuple l'abandonnait. C'était une intention qui pouvait tromper les hommes, mais qui ne pouvait pas tromper Dieu. Qui ne pouvait pas tromper Dieu. On peut faire semblant devant les hommes que le choix que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Mais en réalité, Dieu sait que non, tu ne l'as pas fait pour moi. Dieu le sait clairement. Bien-aimé, donc même si nous mentons devant les hommes, devant Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas mentir. Éternel Dieu de gloire, je veux le mariage. Et quand le mariage est là, on oublie Dieu. Seigneur, donne-moi un enfant. Quand l'enfant est là, on oublie Dieu. Est-ce que l'intention du mariage, l'intention d'enfanter, est-ce que c'était réellement pour que le nom de Dieu soit glorifié? Ou c'était tout simplement pour faire comme les autres, pour être comme les autres? Tu es peut-être le seul homme de ta famille qui n'est pas encore marié. Peut-être la fille de ta famille qui n'est pas encore mariée. Alors la honte est là parce que les gens rient. Comme on se moquait de Anne, par sa rivale, parce que Anne n'arrivait pas à enfanter. Mais Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Est-ce que les intentions que nous avons sont réellement pour que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié? L'intention que Saül avait a été dévoilée. Était une intention simplement pour garder son pouvoir. Son problème n'était pas d'offrir un sacrifice à Dieu. Son problème était que le peuple reste à côté de lui et que lui marche comme un véritable roi. Et la conséquence est que Dieu l'a rejeté. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, eh bien Dieu aussi te rejette. Voilà ce que Samuel dit à Saül. Tu n'as pas obéi. Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice? Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Bien-aimés, nous savons que Dieu est adoré jour et nuit dans le ciel. Jour et nuit, on l'adore, bien-aimé. Il veut aussi notre adoration. Mais si nous ne lui donnons pas cette adoration-là, bien-aimé, Dieu ne mourra pas. Il est éternel. Nous avons besoin de Dieu et nous devons lui offrir des sacrifices, mais des sacrifices qui reposent sur sa parole, avec des intentions pures, avec des intentions honnêtes. Dieu a parlé à son peuple, a dit, mais vous me trompez. Le peuple a dit, mais Seigneur, nous te trompons comment? Dieu dit, oui, mais vous me trompez avec vos offrandes. Vous me trompez avec vos offrandes, vous donnez le superflu, vous donnez ce qui ne vous coûte rien. Vous me trompez devant les hommes, vous paraissez comme donner. Mais Dieu sait qu'en réalité, vous ne donnez rien. Dieu a repris le peuple, il a dit, mais viendra un jour où je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Dans le dernier chapitre de Malachie, il dit, vous me trompez. Devant les hommes, vous paraissez comme être pieux, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Dieu a repris son peuple parce que le Seigneur prend plaisir à l'obéissance de sa parole. L'obéissance vaut mieux que les intentions, bien-aimées. Nous prenons un autre exemple, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, à partir du verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il t'a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors, bien-aimés, à cette époque-là, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de pauvres dans l'Église. Il n'y avait plus d'indigents. Il n'y avait plus de pauvres. Parce que les disciples, les chrétiens, mettaient tout en commun. Ils partageaient tout ensemble et c'est pourquoi il n'y avait plus de pauvres. Certains vendaient leur terrain, certains vendaient leur maison et apportaient l'argent auprès des apôtres qui géraient cet argent en fonction des besoins de chacun. Alors, il y eut un homme et une femme, Ananias et Saphira, qui ont voulu faire comme les autres, qui ont voulu aussi vendre leur maison pour donner l'argent comme les autres le faisaient. Et ils l'ont fait avec... Ils viennent apporter l'argent avec le mensonge. Ils ont vendu cela à un prix et ils viennent devant les apôtres pour donner un autre prix. L'apôtre Pierre dit, mais pourquoi tu mens ? À quoi ça sert de mentir ? Même si tu ne vendais pas ce terrain-là, mais tu n'aurais pas péché, c'est ton terrain. Si tu avais vendu à un prix et que tu t'étais convenu de donner tant d'argent et de garder le reste, mais tu étais aussi libre. Pourquoi venir mentir ? Pour vouloir épater qui ? L'apôtre Pierre lui dit, mais tu pensais avoir affaire à nous, mais non, tu as affaire à Dieu. Lorsque tu donnes, donne à Dieu. Tu as l'impression, tu veux tromper l'homme pour séduire. Comme certains cherchent à plaire aux responsables de l'Église, pour être le bras droit ou le bras gauche, je ne sais comment. On fait des choses, non pas pour plaire à Dieu, mais tout simplement pour que le pasteur soit d'accord avec moi. On fait des choses pour plaire à l'autre, pour être reconnu. Dans l'église, il est connu pour ceci. Dans l'église, il est connu pour cela. Tout le monde sait que quand le frère était dans... Voilà, il s'est donné une renommée parmi les hommes. Mais l'apôtre Pierre dit, mais à qui tu crois avoir affaire ? Tu avais affaire à Dieu, non pas aux hommes. L'intention qui était là, devant les gens qui ont vu, la crainte s'est emparée, certainement ceux qui ont vu, mais qui n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais ? Il est venu, il a vendu, il a donné l'argent. Lorsqu'il a fait ces choses-là, il était seul avec sa femme. L'apôtre Pierre l'a su par révélation du Saint-Esprit. Donc les hommes qui étaient là ne pouvaient pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? Parce que les intentions étaient mauvaises. Elles étaient cachées devant les hommes, mais elles n'étaient pas cachées devant Dieu. Les conséquences de nos intentions, bien-aimées, démontreront si réellement nous l'avons fait avec une pureté de cœur, si nous l'avons fait avec amour, si nous l'avons fait dans le souci réellement de plaire à Dieu. Mais si c'était pour les hommes, si c'était pour épater les hommes, bien aimé, les conséquences vont le témoigner. Les conséquences vont témoigner. L'apôtre Paul a dit, si je prêchais pour les hommes, pour satisfaire les hommes, alors je ne serai plus serviteur de Dieu. Lorsque les serviteurs prêchent pour que l'église soit remplie, lorsque les serviteurs prêchent pour ne pas que les gens quittent, parce que si on parle trop du péché, ils risquent de quitter l'église. Or, c'est lui qui soutient l'église. Si je prêche, mais c'est quand même un ministre qui est dans notre assemblée, donc si on prêche ça, il risque de quitter. Beaucoup de compromis pour maintenir un certain nombre. Bien aimé, mais on verra la conséquence dans la vie de ces chrétiens-là qui ne reçoivent qu'une parole partielle. Que ces personnes-là pour lesquelles on n'a pas dit que fumer c'était mauvais. Ces personnes-là pour lesquelles on n'a pas voulu dire que le concubinage était mauvais. On les laisse dans des situations qui produisent la mort dans leur vie. Et les conséquences seront très graves. Mais Dieu demandera des comptes aussi à tous ces serviteurs-là qui ont voulu prêcher non pas dans l'intention de sauver les âmes, mais tout simplement dans la sauver, de se faire un succès, dans l'intention de garder un certain nombre pour bien profiter des offrandes, dans l'intention de pouvoir garantir son avenir. Et nous voyons bien aimé que dans beaucoup de pays, les gens veulent devenir pasteurs, non pas vraiment pour servir Dieu. Ils veulent devenir pasteurs parce qu'ils savent qu'ils mangeront bien. Ils savent qu'il aura son loyer chaque mois. Ils savent qu'il aura son salaire chaque mois. Ce n'est pas dans l'intention. Mais viendra un temps, le Seigneur dit, où il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Un jour, Dieu manifestera réellement ceux qui sont de lui, ceux qui avaient des bonnes intentions et ceux qui n'en avaient pas. Dieu dévoilera toutes choses, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, le jugement de Dieu se manifestera une chose. La Bible nous demande de veiller sur notre cœur. Les intentions, la volonté, le désir de faire, ça vient de notre cœur. Et Dieu nous demande de purifier notre cœur. Il demande de veiller sur nos cœurs afin que réellement les actes que nous posons soit en conformité avec la parole de Dieu. Que ça ne soit pas des actes vains, mais que ça soit vraiment des actes posés pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ananias et Saphira ont voulu mentir pour montrer devant les hommes qu'eux aussi, ils ont pu faire. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Beaucoup font des églises simplement pour prouver qu'ils sont capables de faire. Des gens qui travaillaient ensemble depuis des années, mais au bout d'un moment, ils ne supportent pas la place peut-être du numéro 2, du numéro 3, je ne sais pas, selon leur classement. Donc, ils décident que lui aussi peut faire comme le pasteur, il faut qu'il aille faire sa propre église. Et les conséquences sont dramatiques, bien-aimés. C'est ça qui amène la religiosité. Nous voyons beaucoup de pays, bien-aimés, où vous marchez sur une rue de 100 mètres, vous allez voir au moins 10 églises à chaque fois. Parce que chacun veut faire à sa manière, parce que chacun veut faire sa chose pour montrer qu'il est capable d'eux. Ce n'est pas dans l'intention de sauver les âmes. Ce n'est pas dans l'intention de faire réellement la volonté de Dieu. C'est tout simplement dans l'intention de faire. Et la concurrence entre lequel pasteur a la plus belle voiture, lequel pasteur a la plus belle chaîne de télévision, lequel pasteur s'habille le mieux. La concurrence est entrée parce que les intentions sont mauvaises. Et toutes ces conséquences-là qui deviennent visibles sont déjà des jugements de Dieu. Pour Dieu commence à manifester qui est de lui et qui n'est pas de lui. Nous devons veiller sur notre cœur bien-aimé. Dieu amènera à l'existence les choses qui ne sont pas. Alors, à combien plus forte raison, il va dévoiler aussi dans nos cœurs ce qui est déjà. Nous prenons un autre exemple, Genèse chapitre 4. Genèse 4, la Bible dit au verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant des offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Caïn et Abel, la Bible dit, chacun de leur côté, vont offrir un sacrifice à Dieu. Caïn, qui était laboureur, va offrir des fruits de sa production. Et Abel, lui, va offrir les prémices, les premiers-nés de son troupeau. Mais la Bible nous dit que Dieu a vu favorablement le sacrifice d'Abel. C'est le sacrifice d'Abel que Dieu a reçu d'une manière agréable. Alors j'ai eu à discuter avec un frère qui m'a posé la question, il dit, mais Caïn aussi avait fait un sacrifice. Dieu pouvait agréer ce sacrifice. Pourquoi Dieu a-t-il aimé le sacrifice de Caïn plus que le sacrifice d'Abel? D'Abel plus que le sacrifice de Caïn. Pourquoi Dieu a fait cette différence? Il a offert les fruits de ce qu'il a produit. Mais Abel a donné les premiers-nés. Et la Bible nous l'explique dans Hébreux 11 que le sacrifice d'Abel était un sacrifice fait avec foi. Or, la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Les intentions, bien-aimées, lorsque nous les amenons en pratique, les conséquences témoigneront, est-ce que nous l'avons fait dans l'intention de plaire à Dieu? Or, la Bible nous dit que c'était Abel qui avait fait le sacrifice agréable, le sacrifice avec foi. Donc, Abel avait vraiment l'intention de faire quelque chose de bien à Dieu. Bien-aimé, à cette époque-là, il n'y avait pas la loi écrite. Il n'y avait pas la loi où les gens pouvaient voir pour dire qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à Dieu. Il n'y avait que l'intention. Donc, les gens, à l'époque, lorsqu'ils faisaient quelque chose pour Dieu, c'était vraiment le cœur qui parlait. Ils n'étaient pas influencés par la parole, ils n'étaient pas influencés par un serviteur, mais c'était vraiment l'élan de leur cœur, c'était vraiment l'amour qu'ils avaient pour Dieu qui les poussait à faire quelque chose. Et nous voyons que dans le sacrifice d'Abel, l'intention était vraiment une intention basée sur l'amour qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Un sacrifice auquel Dieu a pris plaisir, et la Bible dit, quoique mort, ce sacrifice parle encore. Donc ce sacrifice, il est comme si, encore vivant, c'est comme si il était encore devant le trône de Dieu, parce que Dieu a été touché par le sacrifice d'Abel. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, les premiers, les prémices. Bien aimé, nous voyons quel risque. Tu viens de signer ton contrat de travail. Tu viens de créer ton entreprise. Les premiers résultats, les premières recettes, tu viens, tu donnes tout à Dieu. Quel acte de foi! Tu ne sais même pas si l'entreprise va continuer, va survivre, mais tu prends le risque de donner ce que tu viens de récolter. Mais quand tu commences, tu ne donnes rien. L'entreprise, ça fait 5 ans, 10 ans qu'elle vit, le chiffre prospère, là tu viens, tu donnes. Caïn avait produit, il a donné les fruits de la terre, il n'y a pas de problème. Mais Abel a donné les prémices, il a donné les premiers. Or, dans les prémices, c'est ce qui garantit la multiplication. Il a donné ce qui pouvait assurer l'avenir, comme Anne a fait son premier fils. Elle est venue et elle l'a consacré à Dieu. Sans être certaine que peut-être que Dieu lui donnera d'autres enfants. Mais le premier qu'elle a eu, elle a tout donné à Dieu. Les intentions d'Abel étaient bonnes. Il n'y avait pas la loi. Mais il avait la loi dans son cœur et l'amour qu'il avait pour son Dieu. Et Caïn fut jaloux de son frère. Il a fini par tuer son frère. Le Seigneur lui voit, il lui dit, mais pourquoi ton visage est irrité? Caïn était jaloux. Il n'a pas voulu faire pour plaire à Dieu. Il a voulu tout simplement montrer que lui aussi pouvait faire à Dieu. Bien-aimé, ne regardons pas aux autres. David a dit, Seigneur, ce que nous t'offrons, c'est ce qui nous vient de toi. Ce que tu peux donner à Dieu, donne-le en fonction de ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à donner comme tu as vu l'autre donner. Tu ne sais pas comment Dieu l'a béni. Tu ne sais pas à quoi Dieu l'a appelé. Tu veux copier pour faire comme lui. Tu ne sais peut-être pas le don que Dieu a mis en lui pour qu'il puisse faire ce sacrifice à Dieu. Dieu ne demande pas qu'on fasse tous des sacrifices d'une manière égale. Ce que Dieu demande, c'est que nous puissions le faire avec foi, avec l'intention de lui plaire à lui, avec l'intention de lui donner véritablement. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il était devant le temple, qu'il a vu cette femme donner la seule pièce qu'elle avait, il a dit « Cette femme a donné plus que tout autre. » C'était qu'une pièce, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Devant les hommes, ça pouvait paraître comme petit, mais pour Dieu, c'était beaucoup, parce que c'était simplement ça qu'elle avait. Ne regardons pas aux autres bien-aimés. Veillons sur les intentions de notre cœur. Ne dis pas « Ce que j'ai donné, c'est peu, Seigneur. » Ce que j'ai donné, c'est peu. Bien sûr, c'est peu, parce qu'on ne donnera jamais assez, même si c'est des milliards et des milliards. Ça ne pourra jamais satisfaire Dieu, puisque Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais c'est ce qui nous coûte, nous. C'est ce qui nous dépouille. Ce que nous avons pu faire dans une bonne intention, avec sincérité, faisons-le, bien-aimé, sans regarder si c'est beaucoup ou pas. Veillons simplement sur notre intention. Est-ce que je l'ai fait dans l'intention de vouloir cacher, de vouloir retenir? Est-ce que j'ai fait dans l'intention parce que j'ai peur du lendemain, donc il faut quand même que j'ai un peu d'argent au cas où, bien-aimé, Dieu doit être seul notre sécurité. L'argent ne peut pas être une sécurité. Mettre de l'argent de côté pour se dire au cas où il y aurait un coup dur, bien-aimé, ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Nous devons, bien-aimé, servir Dieu avec des bonnes intentions. Nous prenons un autre passage, Luc 19. Luc 19, la Bible dit, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous voyons, bien-aimés, dans beaucoup de guérisons que le Seigneur a fait, notamment cette femme qui souffrait de perte de sang et qui s'est dit, mais si je touchais seulement le bord du vêtement de Jésus, je serais guérie. Lorsque cette femme a été guérie, le Seigneur lui a dit, mon enfant, va, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Donc, à travers cet exemple, nous voyons que l'intention qu'elle avait, même si c'était de recevoir une guérison, c'était une intention qui était poussée par la foi en Dieu. Dans cet exemple-là, un homme, un chef des publicains, monte sur un arbre parce qu'il était de petite taille. Bien-aimé, quelle honte! Quelle honte, bien-aimé! Vous imaginez le président du conseil régional montait sur un arbre, faire le singe. Mais qu'est-ce que les conseillers vont dire? Il était de petite taille, mais il voulait voir Jésus. Les gens pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce que lui fait, l'imbécile comme ça, à monter sur un arbre? Dans quelle intention? La Bible nous dit que c'était pour voir Jésus. Mais est-ce que réellement, il ne voulait que voir Jésus? La suite nous dit que lorsque Jésus-Christ lui a dit, « Descends, il faut que je mange aujourd'hui chez toi », cet homme-là s'est repenti instantanément. Seigneur, voici, si j'ai volé, je rends au quadruple. Bien-aimé, Zachée a récité un commandement de l'Ancien Testament. qui disait que lorsque tu auras fait du tort à ton prochain, tu devras lui rembourser 4 fois. Zachée a récité un commandement. Voilà, l'intention qui était une intention fondée sur la parole de Dieu. Et ça, c'était une intention. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce que l'intention de cet homme était pure. On pouvait penser que c'était que pour voir Jésus. Mais la suite, sa confession a montré que non, c'était une intention dans laquelle il voulait vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Il a confessé et il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Nous avons vu les exemples précédents, bien-aimés. Lorsque les intentions sont mauvaises, certains hommes sont morts, ils ont été frappés. Mais lorsque l'intention est bonne, le Seigneur dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Lorsque les intentions sont bonnes, bien-aimés, ça réjouit le cœur de Dieu. Dans Acte 8, à partir du verset 26, un des disciples de Jésus, le Saint-Esprit lui dit, va sur la route, il y a un homme qui est là-bas. Et la Bible dit que cet homme qui était dans son char lisait un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 53. Cet homme allait à Jérusalem pour adorer Dieu. Il allait adorer quelqu'un qui prenait comme son Dieu. Le disciple lui pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Mais comment toi tu vas adorer quelqu'un mais tu ne comprends pas sa parole? C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit aux Samaritains, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Philippe adorait quelqu'un qu'il connaissait. L'intention d'aller, on pouvait se dire, mais lui il va adorer mais il ne connaît même pas la parole. Il va adorer, mais il ne sait même pas qui est Jésus. Il n'arrive même pas à discerner que c'est de Jésus qu'on parle dans ce passage. Visiblement. Mais lorsque le disciple lui a expliqué, il lui a raconté l'histoire de Jésus, cet homme instantanément a dit, « Alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» À l'instant, ils ont arrêté le char, ils sont descendus et il s'est fait baptiser. L'intention dans laquelle il allait à Jérusalem, c'était réellement pour adorer Dieu. Même s'il n'avait pas toute la loi, même s'il ne connaissait pas tout, mais son cœur allait vraiment pour Dieu. Et parce que son cœur allait pour Dieu, Dieu l'a amené sur la bonne voie. Bien-aimé, beaucoup de personnes qui sont dans des sectes, beaucoup de personnes qui sont dans des fausses religions, si réellement dans leur cœur, ils cherchent Dieu, un jour, Dieu se révélera à eux et ils sortiront de là. Si leur intention est véritablement de connaître celui qui a créé le ciel et la terre, un jour, ils le rencontreront. L'apôtre Paul, persécuteur des chrétiens, ils emprisonnaient les chrétiens. Il assistait et il donnait son accord lorsqu'on tuait les chrétiens. Il va se rendant sur la route de Damas pour aller arrêter d'autres chrétiens. La Bible dit qu'il vit le roi des rois en route. Paul, il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur dit, il te serait difficile de résister. Dieu connaissait le cœur de Paul. Et Paul l'explique plus tard en disant que si Dieu lui a pardonné, parce que Dieu connaissait ses intentions. Paul faisait ça vraiment dans l'intention de plaire à Dieu. Il pensait qu'en faisant ce mal-là, il faisait la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a accepté. Même si, manifestement, les hommes voyaient que cet homme était mauvais, Dieu connaissait les conséquences. Dieu connaissait le pourquoi. Et il savait qu'au fond de son cœur, les choses n'étaient pas mauvaises. Bien-aimés, c'est pourquoi ne jugeons pas les gens. Il y a des personnes qui peuvent être dans l'erreur. Il y a des personnes qui peuvent apparemment prêcher un semblant ou comme une fausseté, bien-aimés. Le jugement appartient à Dieu seul. Dieu connaît dans quel milieu cette personne a grandi. Le Seigneur connaît dans quel milieu spirituel cette personne a été élevée. Et c'est ce qui peut-être le pousse aujourd'hui à servir le Seigneur d'une manière qui n'est pas forcément agréable à Dieu. Mais le jour où Dieu se manifestera clairement, il aura le choix à faire. Les intentions, bien-aimés, c'est Dieu qui les voit dans le cœur. Beaucoup d'entre nous, en ce temps-là, comme certains en doutaient, lorsque Paul s'est converti, les gens avaient encore peur. Ce n'est pas possible, ça c'est une blague. Le jugement appartient à Dieu. L'intention, c'est Dieu seul qui la connaît. Mais la conséquence nous montre que réellement, Paul aimait son Dieu. Il dit, voilà, j'ai renoncé à tout. J'ai considéré tout comme perte afin de gagner la connaissance, l'excellence de Jésus-Christ pour qui j'ai tout renoncé. Je considère ma vie comme une perte. Pour moi, mourir m'est un gain. Vivre, c'est Christ. La vie, c'est en Jésus-Christ. Les professions, les proclamations de Paul ont témoigné que dans son cœur, l'intention qu'il avait lorsqu'il manifestait toutes ces choses n'était pas pour faire du mal à Dieu. Il aimait vraiment Dieu et toute sa vie a été un témoignage que réellement il aimait le Seigneur. Nous clôturons rapidement avec 2 Rois chapitre 22. Deux Rois 22, verset 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. » On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations et à la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaire aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre les mains, car ils agissent de manière honnête. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Nous allons au verset 11. « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qu'ils nous ont prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shulam, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Bien-aimé, le roi Josias, la Bible nous dit, lorsque nous lisons plus haut, c'est un roi qui a marché comme David. Il ne s'est détourné ni à droite, ni à gauche. Avant Josias, il y a eu d'autres rois, jusqu'à Ézéchias. Et tous ces rois-là, entre Ézéchias et Josias, ont emmené le peuple dans la prostitution, en allant se prosterner devant les idoles. Et Josias est venu, agréable à Dieu, avec des bonnes intentions. Malheureusement, lorsqu'il était au pouvoir, il n'avait pas fait comme Ézéchias avait fait. Ézéchias, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a détruit tout. Tout ce que ses pères avaient fait, qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, il a tout détruit, il a restauré le culte à Dieu. Et Josias était venu appliquer, marcher comme David. Cependant, il y a certaines choses qu'il n'avait pas éliminées. Alors, en marchant dans les voies de Dieu, ou plutôt dans les voies de son père, il y a des choses qu'ils ignoraient, des choses qu'ils n'avaient pas restaurées. Alors, au moment où il fallait reconstruire le temple, la Bible nous dit qu'un homme a retrouvé le livre de la loi. Et en lisant cela, Josias découvre mais qu'ils étaient dans le péché. Il a permis, il a toléré des choses pour lesquelles Dieu n'était pas d'accord. Et la Bible dit que dès qu'on lui a fait le rapport de ce qui était écrit dans le livre de la loi, il a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié, il s'est repenti et il a demandé à ses serviteurs, « Allez voir la prophétesse afin qu'elle nous dise, mais qu'est-ce que Dieu dit ?» Et nous lisons au verset 18. « Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et la malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, J'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils apportèrent au roi cette réponse. Après que Josias fut entendu ces réponses-là, il a détruit tous les hauts lieux, si nous lisons au chapitre 23. Il a détruit tout. Tout ce qu'il n'avait pas fait autrefois, il a tout détruit, il a restauré. Les actes qu'il a posés ont témoigné que l'intention dans laquelle il voulait se repentir devant Dieu était des intentions véritables. Bien-aimés, lorsque le Seigneur envoyait Jonas prêcher à Ninive pour que ce peuple-là, rebelle à Dieu, puisse se repentir, bien-aimés, la Bible dit que à la prédication de Jonas, plus de 120 000 hommes se sont repentis parce que Dieu menaçait de détruire la ville. Bien-aimés, la repentance a été, mais la suite nous montre que Dieu a fini par détruire quand même cette ville-là. Donc certainement parce qu'ils avaient recommencé. Mais ce roi-là s'est humilié dès qu'il a pris connaissance de la vérité. Il a reconnu que non, il n'était pas dans la bonne voie. Il s'est humilié et il est revenu au Seigneur en pratiquant sa parole. Beaucoup bien-aimés, chaque dimanche, entendent des prédications. Lorsqu'on fait des annonces pour passer devant, ils passent devant s'humilier. Certains pleurent, certains crient, bien-aimés. Lorsque nous voyons ça avec nos yeux, on se dit, mais vraiment, Seigneur, merci d'avoir touché le cœur de la sœur. Merci d'avoir changé le frère, de l'avoir poussé à passer devant pour s'humilier. Bien-aimés, le temps ne passe pas très longtemps. Les mêmes choses recommencent dehors. La vie manifestée dehors est la démonstration que l'intention dans laquelle il était passé devant n'était pas une intention véritable, réellement pour changer de vie. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Bien-aimés, l'obéissance vaut mieux que les intentions. Obéissons tout simplement au Seigneur. Lorsque c'est écrit comme ça, on n'a pas tout compris. Mais Seigneur, puisque tu as écrit comme ça, je vais pratiquer aussi comme ça. Je n'ai pas besoin de confirmation ou de quoi que ce soit. La parole dit que l'homme qui te s'attachera à sa femme deviendra une seule chair. Bon Seigneur, puisque tu as dit une femme, je vais me contenter d'une femme parce que tu l'as dit et que c'est comme ça. Mais lorsque nous cherchons à tout excuser, bien-aimé, c'est que les intentions dans lesquelles nous nous sommes humiliés publiquement, en réalité, n'étaient pas bonnes. Veillons sur notre cœur. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ à la croix. La parole de Dieu n'est pas amenée, bien-aimé, pour la culpabilité. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour pousser les gens à se rebeller, à se mettre en colère ou bien à se croire condamné. La parole de Dieu est donnée parce que Dieu a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Bien-aimés, que cette parole-là nous change. Nous nous connaissons. Que cette parole nous restaure. Bien-aimés, nous nous connaissons. Si ce matin tu penses que cette parole-là, c'est moi qui l'ai dite, bien-aimés, ça c'est ton problème avec Dieu. Mais si réellement tu crois que cette parole-là vient du Seigneur, applique-la, mets-la en pratique afin d'avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ seul au siècle des siècles. Seigneur de gloire, sois béni. Sois glorifié ce matin encore, Seigneur, parce que tu en es digne. Seigneur, nous ne reconnaissons pas un autre Dieu que toi, Seigneur. Véritablement, tu es le seul Dieu. Seigneur, nous sommes passés par beaucoup de voies. Nous avons pratiqué des abominations en consultant les féticheurs, en consultant les voyants, les marabouts, Seigneur. Nous avons marché, Seigneur Dieu de gloire, dans l'impudicité, Seigneur. Et quelquefois même, nous pensions faire le bien. Nous avons réglé des comptes par la violence, Seigneur, en pensant faire le bien. Seigneur, mais nous reconnaissons que nous nous sommes trompés. Parce que le véritable bien, Seigneur, c'est celui qui est conforme à ta parole. Dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur, sonde-nous, connais-nous et dis-nous si nous sommes sur la bonne voie. Tu vois encore, Seigneur, de gloire, toutes les fautes que nous commettons. Mais Seigneur, nous voulons vraiment être changés. Nous voulons vraiment être transformés, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas lutter face au péché par nos propres forces. Mais nous pouvons lutter, Seigneur de gloire, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment t'invoquer, Seigneur de gloire, afin que des fleuves d'eau vive coulent en nous, Seigneur, et nous donne la force et l'autorité sur le péché. Dans le nom de Jésus-Christ. Que des fleuves d'eau vive coulent en nous, Seigneur de gloire, afin de nous aider à mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus. Car toi-même, tu l'as dit, Seigneur, tu ne prends pas plaisir au sacrifice, mais tu prends plaisir à l'obéissance de ta parole. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Donne-nous la force, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons échoué, loin de toi. Nous reconnaissons que nous nous sommes trompés, loin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à ne pas nous laisser conduire par des intentions trompeuses, mais à sonder tout par ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et vraiment, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, tu vois combien, quelquefois, la réalité de ce monde est dure, Seigneur. Comment le monde veut nous pousser à tricher. Le monde veut nous pousser à mentir, Seigneur. Mais nous savons que nous pouvons, Seigneur, nous devons vivre une vie de sainteté. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour ton soutien. Merci de nous renouveler. Merci de nous restaurer encore ce matin, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur de gloire, c'est nos vies ce matin que nous voulons te confier encore. C'est nos vies, Seigneur, ce matin que nous voulons te consacrer. Tu es notre Dieu, Seigneur de gloire. Et nous t'invitons encore, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia.